Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde.
Oui, alors j'aimerais commencer par un petit message de prévention. Odeur de brûlé, fumée inhabituelle ou lueur suspecte, c'est un début d'incendie. Brisez la glace pour donner l'alerte. Fermez les fenêtres et les portes. Dirigez-vous vers les issues de secours les plus proches. À n'en pas douter, dans l'immeuble européen, voilà un petit moment que les odeurs sont suspectes. Et la réaction de nos amis britanniques ne s'est pas faite attendre. C'est en 1973 qu'ils ont acquis leur place dans l'édifice, à l'issue d'un référendum approuvé à 67%, 25 ans après l'évocation par Winston Churchill d'un chantier d'États-Unis d'Europe qui a pourtant débuté sans eux, dans l'exaltation pacifiste de l'immédiate après-guerre. S'il est permis de parler d'une exaltation pacifiste à l'aube de la guerre froide. On a pu lire que le Royaume-Uni devait son euroscepticisme chronique au bout de manche le séparant du continent et au fait que la guerre ne s'est jamais trop traînée sur son sol, contrairement à ceux des voisins, notamment français et allemands. C'est rendre une drôle de justice aux milliers de victimes des bombardements nazis. Non, en vérité, la Grande-Bretagne a longtemps grincé des dents par libéralisme. Et le libéralisme est une, sinon la constante, la plus sûre de notre vieil ennemi d'allié. Bon, je ne reviens pas au temps de Jules César, mais le pays se réclame toujours d'une tradition commerçante ouverte au monde entier, fer de lance du libre-échange, ce en quoi le projet européen pouvait, après tout, s'accommoder à ses principes tels qu'il s'est présenté. Seulement, il y a un hic. Contrairement à la plupart des autres unions régionales du monde, quand elles marchent, l'Union européenne ne se contente pas d'être un club de marchands impatients lassés de payer des droits de douane. L'Union européenne met en place des mesures, intervient sur le terrain, souvent financièrement, ce qui suppose un budget. Et comme ce n'est pas un État à proprement parler, il faut la financer, ce qui passe par une petite contribution à laquelle chaque membre sera tenu de participer selon sa taille et ses moyens. Oui, chaque pays, jusqu'à Malte, à hauteur de 65,7 millions d'euros. Sans surprise, le plus gros contributeur est l'Allemagne, avec ses 80 millions d'habitants et près de 26 milliards de contributions, soit environ 26 Burj Al Arab, 1 milliard d'euros égalant à peu près à 800 mètres de gratte-ciel. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour vous donner une idée. La France suit avec un modeste 19,6 milliards et le Royaume-Uni se place en quatrième rang, derrière l'Italie avec seulement 11 Burj Al Arab. Je dis bien seulement, car il s'agit bel et bien d'une des principales grandes puissances du continent quand même. Il faut dire qu'il y a déjà eu du négoce. On se souvient tous avec tendresse et affection, objectivité toujours, de notre chère mère Thatcher et de son célébrissime « I want my money back » au sujet notamment des subventions agricoles. Et oui, l'Europe, à l'image de la fédération allemande, fonctionne comme une grosse piscine de brassage des richesses, ce qui profite assez naturellement aux pays les plus en difficulté et coûte aux plus riches. Le Royaume-Uni avait obtenu un rabais équivalent aux deux tiers de ce qu'il investissait sans retour dans l'Union. Sans retour pour lui, s'entend. Rabais que les autres pays ont dû prendre en charge à sa place. Et devinez qui paye le gros du magot ? La France. Malgré tout, oui, l'Europe continue de coûter aux citoyens britanniques. Et ce n'est pas tout, car ses défauts pour les eurosceptiques supportant un Brexit sont nombreux. Limite aux envolées lyrico-bancaires du quasi-paradis fiscal qu'est la City londonienne, il ne lui manque que les palmiers ou les montagnes, vous choisissez. Limite à la fermeture des frontières aux vagues de réfugiés, allez donc voir ce qui se passe du côté de Calais. Obligation de payer leurs droits sociaux aux citoyens venus d'autres pays en Europe, travailler sur le sol de sa majesté. Et pour couronner le tout, toujours ces sombres perspectives fédéralistes auxquelles les eurosceptiques semblent malheureusement être les derniers à croire. Bien assez pour que les champions d'une sortie de l'Europe acquièrent dès le début des années 2010 un poids tout à fait respectable, notamment le parti du très médiatique Nigel Farage, le UKIP, UK Independence Party. Très médiatique et très médiatisé. Tout le monde lui ouvre ses portes et l'écoute parler avec une dédaigneuse délectation qui ne fait que le servir. Mais ça, on allait même à la maison. Tout cela tant et si bien que le Premier ministre David Cameron a promis dès 2013, car j'en viens au fait, qu'il mènerait un référendum sous 4 ans si aux élections de 2015 son parti conservateur obtenait la majorité absolue des sièges du Parlement. Un pari assez simple pour rallier des eurosceptiques tentés de basculer aux extrêmes en ces temps de strabisme divergent vers la droite. Pourtant, David Cameron, quoi qu'il puisse lui reprocher, reste attaché à l'Union européenne, qui a accompagné l'essor économique du pays pendant les premières décennies de son ralliement, et qui reste une institution économiquement très pratique. Il faut dire qu'il ne croyait pas trop en sa promesse lorsqu'il l'a formulée, car il ne s'attendait en vérité pas à l'avoir, sa majorité absolue, l'an passé. Mais sa stratégie a dépassé ses espérances. Il va maintenant falloir l'assumer, et l'assumer vite, car les élections en France et en Allemagne pour 2017 risquent de faire pencher la balance, pense-t-on, de l'autre côté de la Manche. revanche, la question doit se régler dans le courant de cette année. Le référendum devrait se tenir en juin prochain selon les résultats des actuelles négociations. Car pour assumer cette décision, M. Cameron sillonne depuis quelques jours les quatre coins d'Europe en vue de mettre sur pied une solution de compromis qui lui permette d'une part de ne pas perdre la face et d'autre part de consolider l'incertaine avance du yes à la question « Should the United Kingdom remain a member of the EU ?» Un compromis sur lequel les partenaires européens, plutôt désireux de ne pas voir partir ce pilier de l'Europe, n'ont pas trop craché jusqu'à maintenant. Pourtant, même si les tabloïds anglais prétendent que ce ne sont que d'insignifiants pansements, les mesures demandées par David Cameron n'ont rien d'anodin. Parmi les plus importantes, il y aurait une limitation des droits sociaux des travailleurs de l'Union résidant au Royaume-Uni et un allègement des réglementations sur le marché unique, notamment concernant les transactions financières. Également, un droit des parlements nationaux d'intervenir directement par un droit de veto sur les décisions prises par la Commission. Mais ce ne sont toutefois pas les mesures les plus discutées du côté français. Celle qui fait le plus d'étincelles chez nous, et qui sent le plus le soufre, ce serait de ne plus qualifier l'euro de monnaie unique de l'Union. Autrement dit, les pays non membres de la zone euro ne seraient plus tenus de respecter une partie des réglementations financières et bancaires de l'Union, tout en gardant un contrôle dessus. En gros, cela constituerait un avantage stratégique décisif pour la City, qui se donnerait le beurre, l'argent du beurre, et quitte à avoir le sourire de la crémière, on aimerait bien se débarrasser de cette mention des traités fondamentaux là, qui parle de « ever closer union », d'union à renforcer. Ça ne plaît pas trop. Bref, on a un petit peu l'impression que la situation, pour le 10 Downing Street, n'est pas si incontrôlée que ça. Certes, les sueurs froides sont bien là et rappellent un peu l'ambiance de tension qui avait précédé le référendum écossais. D'ailleurs, la royauté commence à s'en mêler. Il ne faudrait pas non plus que l'Europe, en voulant préserver son intégrité, se laisse gentiment entuber par cet exigeant membre dont la position de force est à relativiser. Car revenir au statut de pays étranger le déstabiliserait pendant au moins quelques années, sans parler justement de la question écossaise, car l'Écosse est très europhile et cela pourrait bien lui redonner des envies d'ailleurs. Après tout, Londres étant assez prompte à mettre des bâtons dans les roues des différents projets européens, surtout lorsqu'ils impliquent une collaboration plus intense, une Europe libérée de ces polémiques interminables avec menace de départ à la fin, se laisserait peut-être plus de latitude pour rêver d'avenir. Il serait temps.
Merci beaucoup. Alors les perspectives sont très sombres. Avant de rire un peu, on atteint le temps d'échange de cette émission, le moment de revenir sur les sujets abordés, d'en parler, de croiser les points de vue. C'est l'heure de notre discussion.